Nous débutons cette série d'interviews en définissant l'art-thérapie, son histoire, comment on devient art-thérapeute, les lieux de formation, etc., etc. Et pour cela, nous avons en ligne Fabrice Chardon et Christelle Letessier-Debrune. Bonjour Fabrice Chardon, bonjour Christelle Letessier-Debrune.
Bonjour.
Alors, Fabrice Chardon, vous êtes responsable pédagogique en faculté médecine de Tours, vous êtes directeur d'enseignement et de recherche de l'AFRATAPEM, vous êtes coordonnateur Sésame études multicentriques et vous êtes également, bien sûr, art-thérapeute et psychologue. Et Christelle Letessier-Debrune, vous êtes la directrice adjointe d'enseignement et de recherche de l'AFRATAPEM et également art-thérapeute libéral. Alors la première question que j'ai à vous poser, qui n'était pas prévue, mais je pense que on doit la poser quand même, surtout pour nos auditrices et nos auditeurs, qu'est-ce que l'AFRATAPEM ?
Alors, bonne question, effectivement. Oui. L'AFRATAPEM, c'est une association française de recherche en application et de techniques artistiques en pédagogie et en médecine. C'est une association qui a un peu plus de 40 ans maintenant, qui a été créée en 1976, à l'origine par Richard Forestier, qui était philosophe de l'esthétique particulièrement, et qui, en collaboration avec la faculté de médecine de Tours, un monsieur en particulier qui s'appelait le docteur Jean-Pierre Chevrolier, qui était psychiatre de son état, et ces deux messieurs s'intéressaient profondément à la place que l'art pouvait occuper dans le soin, et l'AFRATAPEM est née de cette collaboration et de cette rencontre donc entre ces deux personnes. Richard Forestier étant musicien, et intervenait entre autres dans le service du professeur Chevrolier dans une structure du Loir-et-Cher, si mes souvenirs sont bons. Et donc dans ce contexte là, l'AFRATAPEM a vu le jour, elle s'est développée et c'est officiellement devenu une école d'art-thérapie, la première école d'art-thérapie dite moderne en France. Et qui a, depuis 1976, continué à faire perdurer le lien et la collaboration avec le milieu médical et particulièrement donc la fac de médecine de Tours depuis 1985, puis la faculté de médecine de Lille en 2006 et enfin la faculté de médecine de Grenoble en 2007. Alors il y a eu d'autres collaborations à l'international avec d'autres universités. Je pense à la Roumanie, je pense au Québec, je pense à la Corée du Sud, effectivement, et je pense également au Portugal où il y a eu des partenariats également. Et puis d'autres partenariats se sont mis en place aussi ensuite avec d'autres universités, et ces partenariats perdurent, continuent pour le développement donc de la réflexion sur la place de l'art dans le milieu de soins.
D'accord. Alors l'art-thérapie, qu'est-ce que c'est en fait ?
Donc l'art-thérapie, c'est l'utilisation des pouvoirs et des effets de l'esthétique par la pratique artistique, alors que ce soit par l'action, soit par la contemplation d'une œuvre d'art ou l'écoute de la musique par exemple, en évaluant donc ces pouvoirs et ces effets de l'art. Au service donc de l'amélioration de la qualité de vie de personnes qui sont en souffrance. Et donc cette art-thérapie, il en existe plusieurs types. Il y a deux grands types d'art-thérapie, c'est important de bien faire la différence. Il y a une art-thérapie dite traditionnelle, traditionnelle parce que c'est celle qui a vu le jour au départ en France et dans d'autres pays, principalement des pays anglo-saxons, et qui, en fait, utilisait la pratique artistique principalement pour permettre l'expression de l'inconscient, permettre l'expression de souffrance, permettre l'expression de souvenirs douloureux. Et en fait, on utilisait cette pratique artistique, et on l'utilise toujours, à des fins plutôt catharsiques, c'est-à-dire pour essayer de libérer éventuellement une souffrance ou un mal. et éventuellement de pouvoir l'interpréter pour essayer d'en comprendre quelle peut être l'origine et essayer de trouver éventuellement des solutions pour faire diminuer ces souffrances. Ça, c'est l'art thérapeutique traditionnel, c'est-à-dire qu'elle se rapproche plus du courant psychanalytique et elle est principalement enseignée dans des facultés de psychologie ou dans des structures et des organismes de formation privés, mais avec une obédience plutôt donc psychanalytique. La Frate Apem, elle, a choisi un courant, et c'est la seule école d'art-thérapie en France qui a suivi ce courant, donc c'est assez unique. Et Richard Forestier donc est à l'origine de ce qu'on appelle l'art-thérapie dite moderne, c'est-à-dire que c'est une art-thérapie qui, elle, ne va pas du tout analyser la production. Elle va plutôt s'appuyer sur ce qu'on appelle l'art comme étant un processeur de soins, c'est-à-dire vraiment la totalité de la dynamique d'engagement corporel, psychique, psycho-affectif, cognitif, social de l'art. Et donc, ce qui va être important, c'est la mobilisation du patient, justement, dans son activité, en l'occurrence artistique, pour lui permettre de ressentir, de s'engager, de s'impliquer, de partager grâce donc à cette activité artistique. Et donc cette mobilisation complète de la totalité de ces entités, physiques, mentales et sociales, vont permettre aux patients de se sentir, il pourra se sentir beaucoup plus investi, il va pouvoir se sentir autonome, il va pouvoir développer sa fierté, il va pouvoir éventuellement recouvrer un peu d'espoir et puis affirmer ses choix, reprendre véritablement une place pour pouvoir justement, à défaut de se guérir, au moins avoir envie de s'engager dans l'amélioration de sa qualité de vie.
Fabrice Chardon, dites-moi un peu, en fait, l'art-thérapie, qui a découvert les bienfaits de l'art-thérapie ? Je ne sais pas si on sait d'ailleurs vraiment qui a découvert ça.
Ah bah, vous avez tout à fait raison, parce que c'est tellement ancestral cette histoire, il faut quand même bien avoir en tête que la pratique artistique est associée quand même au développement de l'être humain depuis l'apparition sur Terre. C'est-à-dire que si on remonte très très loin, il y a un certain nombre d'activités que l'être humain a continué à développer. Il a bien entendu très rapidement essayé de comprendre comment fonctionnait son corps, et principalement lorsque ce dernier était éventuellement mis à mal ou blessé. Donc la médecine est apparue très très vite, et il y a eu un élément qui a accompagné toute cette démarche-là, ça a été effectivement la pratique artistique. Donc si on prend les peintures rupestres ou l'art pariétal, on voit bien qu'il y a déjà une pratique qui est très très ancienne. Après, si on remonte un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si on se met au niveau de l'Antiquité, on avait déjà une multitude d'utilisations de la pratique artistique pour essayer d'améliorer justement certains maux. Hippocrate le mentionne, hein. Hippocrate, il demandait même à certains de ses patients d'aller au théâtre, ce qui leur permettait éventuellement de ressentir des émotions différentes et donc de pouvoir modifier des humeurs, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, et faire en sorte qu'éventuellement une personne qui se sente un peu triste, une fois qu'elle sort, qu'elle allait voir une pièce de théâtre ou qu'elle sortait d'une tragédie, la présentation d'une tragédie, elle pouvait éventuellement se sentir beaucoup mieux. Donc c'est assez ancestral, ça remonte à de nombreuses années, de nombreux siècles. Et puis ensuite, les choses se sont développées. Alors principalement, on a peu de traces au Moyen-Âge. On en a quelques-unes fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, par exemple, où, On prescrivait le son du tambour, par exemple, principalement lié aux vibrations, pour essayer d'améliorer un certain nombre de troubles digestifs. On avait inventé, par exemple, la tarentelle, la fameuse danse de la tarentelle, qui est en lien direct avec la piqûre de la tarentule. D'accord. Et donc, on avait tendance à vouloir faire danser les gens pour justement essayer de faire en sorte que le venin se dissipe, ce qui en soi n'était pas forcément la meilleure des idées, puisque en augmentant le rythme cardiaque et donc l'afflux sanguin, on avait tendance à faire en sorte que le venin se dissipe un petit peu plus, enfin plutôt commence à passer dans la totalité du corps, ce qui faisait qu'on augmentait plus rapidement le risque de décès. Mais bon, ça c'était une autre histoire. Et puis les choses se sont développées jusqu'à arriver à la Renaissance, puis effectivement le 17e, le 18e siècle, où les grands aliénistes ont commencé à mettre en avant le fait que justement la pratique artistique pouvait permettre d'accéder à, on va dire, aux souffrances et au fonctionnement psychique. On parlait pas véritablement de ce terme-là à l'époque, mais en tout cas ça permettait d'avoir accès à ce qui se passait au niveau de la tête. On parlait plutôt d'âme à l'époque, et donc des aliénistes comme Esquirol, par exemple, ont commencé à faire pratiquer l'art à leurs patients, ce qui leur a permis de voir, effectivement, de mieux comprendre quels étaient leurs dysfonctionnements et de pouvoir essayer de proposer des solutions thérapeutiques. Et donc, ça nous a emmené jusqu'au début du 19e. Le 19e a vu passer un certain nombre de comédiens qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu énormément de choses. On est sur ce qu'on appelle l'art des fous aussi, c'est-à-dire le développement d'une activité artistique véritablement spécifique et adapté dans le cadre des hôpitaux psychiatriques. Et puis ensuite, on arrive au début du 20e, et au début du 20e, il se passe un événement très important au niveau de la compréhension du fonctionnement psychique, puisque Sigmund Freud va commencer à travailler un petit peu sur ces modalités, et va aborder la notion officielle de souffrance psychique et mentale, et à partir de là, on va commencer réellement à développer les techniques artistiques et les modalités justement d'expression pour essayer de trouver la solution à une problématique et d'essayer justement de comprendre pourquoi la personne présentait tel ou tel symptôme. Et à partir de là, les pays anglo-saxons vont s'emparer véritablement. Il va y avoir deux courants. On va avoir un courant qui va essayer de comprendre comment fonctionne l'appareil psychique. On est plutôt sur les pays anglo-saxons, et les pays latins vont rester très ancrés sur les théories freudiennes. Et donc, on va commencer à développer déjà des prémices de psychothérapie à médiation artistique, c'est-à-dire d'essayer de soigner le patient en essayant de comprendre justement à travers ses productions, à travers ses dessins, comment il fonctionne et surtout qu'est-ce qu'il exprime et pourquoi telle ou telle attitude peut être en lien éventuellement avec une souffrance qui est relativement enfouie au niveau de son fonctionnement psychique. On a un énorme développement de l'art-thérapie à partir de 1950, puisqu'il y a deux choses qui apparaissent à ce moment-là. On a quand même la découverte des neuroleptiques en psychiatrie, et puis on a un développement important de l'art-thérapie au niveau de l'école et de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, donc toujours en psychiatrie. Et à partir des années 70, on va avoir une évolution, là encore une fois, puisque vont se développer deux courants bien distincts que vont être l'art-thérapie proprement dite, avec la pratique uniquement des arts plastiques, et puis d'un autre côté, la musique, qui va prendre un essor important, où on va commencer à utiliser la musique pour essayer de faire verbaliser le patient, de lui faire exprimer un certain nombre d'émotions, de sentiments, d'attitudes. Et l'idée étant que les deux vont prendre des chemins un peu croisés. Et c'est ce qui va faire une des particularités, entre autres, de la Fratapem, c'est que la Fratapem va rassembler vraiment les deux notions. Elle va pas faire de distinction. L'école ne va pas partir soit sur des modalités purement art plastique ou purement liées à la danse ou au théâtre ou à la musique. La Fratapem va rassembler la totalité des techniques artistiques, justement pour essayer de réfléchir véritablement aux spécificités plus de l'art que de telle ou telle technique. Et ça, c'est ce qui fait une des caractéristiques aussi, et c'est ce qui fait un élément important de l'axe de recherche et d'enseignement qu'on va retrouver au sein de la Fratapem. We'll be right back.
D'accord, d'accord. Alors, on voit bien un petit peu le cheminement, le développement de cette discipline. En France, comment l'art-thérapie s'est-elle fait le connaître alors ?
Elle a commencé vraiment à rentrer dans un premier temps dans les structures psychiatriques, puisqu'elle était dans la suite logique de ce qu'on appelait l'art des fous, c'est-à-dire que en fait on faisait exprimer les patients. Mmh. Et donc en France, elle est d'abord apparue en psychiatrie, mais elle s'est restée longtemps en psychiatrie, jusqu'au milieu des années 80, voire même tout début des années 90. Majoritairement, on retrouvait des art-thérapeutes en psychiatrie. Et tout doucement, on a vu apparaître d'autres modalités aussi en termes de connaissances, en termes de neurosciences, en termes d'approches thérapeutiques un peu différentes, basées par exemple sur la place du corporel, basées sur la place de la famille, basées sur la place d'un certain nombre de modalités un peu différentes. Tout d'un seul coup, on commençait à voir apparaître des modalités plus humanistes, centrées sur le patient, dans une démarche un peu holistique, c'est-à-dire qui tient compte vraiment de toutes les modalités du patient. Et donc, l'art-thérapie a tout doucement développé son champ d'application dans d'autres structures que vont être, par exemple, les structures médico-sociales. On a vu rentrer l'art-thérapie auprès dans des structures qui accueillent, par exemple, des patients qui présentaient un handicap mental ou une vulnérabilité psychique. On a ensuite commencé à voir rentrer l'art-thérapie en gériatrie. On a vu tout doucement l'art-thérapie se développer auprès des enfants qui étaient accueillis, par exemple, dans des structures type des instituts médico-éducatifs ou des maisons d'enfance à caractère social, pour arriver finalement au début des années 2000 où la totalité des structures sanitaires et médico-sociales pouvaient bénéficier de l'art-thérapie. Une des particularités de l'art-thérapie, c'est qu'elle s'adresse principalement à l'art-thérapie moderne, c'est qu'elle a trois champs d'implication principaux, c'est-à-dire pour des personnes qui présentent des troubles de l'expression, ça peut être par exemple lié à un trouble autistique, ça peut être lié à un trouble cognitif, à un trouble neurologique, à des personnes qui présentent des troubles de la communication, donc on va retrouver ça par exemple dans des pathologies comme la psychose, comme la schizophrénie, comme certaines formes d'autisme également, et puis des personnes qui vont présenter des troubles de la relation, donc liés par exemple à un trouble de l'humeur, comme par exemple la dépression, ou un trouble de la relation lié à une souffrance ou à une blessure de vie. On va retrouver ça par exemple chez des patients qui présentent une maladie chronique ou une maladie potentiellement létale qui peut entraîner chez eux effectivement une diminution de leur capacité de se projeter dans le temps et d'envisager l'avenir avec espoir.
Alors en fait, l'art-thérapie, c'est une science, ou une médecine ? Bonne question, hein ?
C'est une bonne question. Alors, ce n'est pas une médecine, c'est une science, sans aucun doute. C'est une science parce qu'il y a un protocole, parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y a des modalités spécifiques. Elle est basée sur un certain nombre de concepts théoriques, et donc en ce sens, c'est une science puisque elle a la particularité également d'évoluer. Elle peut être critiquée et elle a la possibilité effectivement d'être mise en cause. Donc en cela, on est plus sur une modalité dite scientifique. Ça en fait une discipline au service de la médecine. Vraiment, mais vu qu'elle est basée quand même sur des concepts scientifiques autour de la neurologie, de la physiologie, de la psychologie, de la sociologie, de l'esthétique, on est plus sur une modalité effectivement scientifique que réellement une médecine.
D'accord. D'accord. On va aborder un autre domaine maintenant, parce qu'on vient de parler de l'art thérapie en général. On a nommé le mot art thérapeute, mais en fait, qui peut devenir art thérapeute? Quel niveau d'études sont nécessaires et quelle formation?
Oui, alors du coup, nos profils sont très variés, puisque du coup, parmi nos art thérapeutes, ce sont souvent des gens qui arrivent et qui sont en reconversion ou dans la continuité d'un parcours qu'ils ont déjà commencé en tant qu'artiste, en tant que soignant, en tant que professeur des écoles, ou alors en tant que personne ayant un poste dans une entreprise et qui cherche une reconversion. Ce sont souvent des gens qui sont en recherche, comme ils disent, de plus d'humanité par rapport à leur métier et qui s'intéressent à la souffrance de l'autre. Donc les personnes qui ont un parcours avancé et qui s'intéressent justement à cette dynamique de soins et de souffrance de l'autre en intégrant une partie artistique, puisqu'il faut avoir une pratique artistique pour devenir art thérapeute. Effectivement, il y a un niveau d'études attendu parmi les différents prérequis. Et ce niveau d'études pour être rentré à la FRATAPEN, il est d'un niveau Bac+3 pour intégrer directement le cycle d'art thérapie avec du coup des compétences artistiques reconnues. Donc ça peut être autodidacte, mais il faut effectivement qu'il puisse y avoir eu des prestations publiques, que la pratique artistique soit reconnue publiquement, et puis des modalités professionnelles qui sont adaptées à la dynamique de soins. Nous avons aussi une proposition qui permet d'entrer dans un cycle préparatoire qui là permet de rentrer à un niveau Bac+2 avec des compétences pareilles artistiques reconnues et des compétences déjà d'animation, quelques expériences d'animation au niveau artistique puisque notre formation en fait ne forme pas des artistes, mais notre formation propose une approche méthodologique autour de l'art thérapie.
D'accord. Alors on a parlé tout à l'heure de la FRATAPEM assez rapidement. Alors quelles formations sont dispensées au sein de cet établissement?
Alors, on a une formation que j'ai appelée le cycle d'art thérapie, en fait, qui se décompose en deux parties, qui sont le cycle fondement théorique et pratique. On a une première approche, on va dire, théorique et des éléments pratiques avec des stages pour tout ce qui est de mettre en place un protocole art thérapeutique. Et puis, c'est développé dans une deuxième partie qui s'appelle application méthodologique, qui permet d'approfondir la mise en place d'un protocole et des évaluations en art thérapie. Donc ça, c'est le gros cycle lié à l'art thérapie. Et comme je disais, donc cette formation peut être précédée de ce qu'on appelle un cycle préparatoire, qui permet donc de poser vraiment le vocabulaire de base, les modalités relationnelles, des éléments d'animation pour se préparer à l'entrée du cycle d'art thérapie en prenant le temps de vérifier si le métier nous correspond, si on est bien dans la dynamique de soins, si notre projet va vraiment vers le soin ou s'il irait plutôt vers de l'animation artistique. Que la FRATAPEM propose aussi en parallèle formation d'intervenants spécialisés en atelier artistique. Et donc là, la proposition est plutôt d'aller vers l'animation artistique ou la mise en place d'un atelier d'art avec le fait de transmettre une pratique artistique et qui n'a pas vocation à être dans le soin. Qui n'a pas vocation, de l'animation classique artistique.
D'accord. Il y a aussi le diplôme universitaire qui se passe en fac de Lille, Grenoble ou Tours. Quelle est la plus-value, quelle plus-value apporte le diplôme universitaire?
La plus-value, elle est principalement basée sur trois éléments importants. Le premier, c'est que on va travailler énormément avec avec l'appui et le soutien de l'enseignement universitaire médical. Donc ça, c'est un point très important. En ce sens, il y a une reconnaissance du travail qui est engagé dans la formation au niveau de la Fratapem et donc du contenu de la formation tant sur le fond que la forme. Donc le diplôme universitaire vient apporter ce cautionnement médical supplémentaire. Le deuxième élément, il y a, comme toute discipline paramédicale et donc basée sur les sciences humaines, une connaissance, bien entendu, à avoir au niveau de la relation patient-soignant, sur le lien à apporter, sur la relation d'aide. Et c'est un élément qui est également abordé de manière plus spécifique, plus détaillée, puisque la principale caractéristique, il faut bien l'envisager comme ça, c'est que la formation à la Fratapem permet de comprendre l'art thérapie, permet d'apprendre les fondements de l'art thérapie. Avec le DU, on travaille beaucoup plus sur l'art thérapeute. Et j'insiste sur ce point, puisque c'est un élément qui fait vraiment la différence. Et enfin, le troisième axe, au niveau du diplôme universitaire, c'est un travail de recherche, puisque l'art thérapie a besoin de montrer qu'elle est efficiente, qu'elle est basée sur des modèles scientifiques, sur des protocoles de recherche validés. Et donc le principe du diplôme universitaire, c'est également, parmi ses objectifs, d'apporter cet élément supplémentaire, alors qui existe déjà à la Fratapem, mais qui là va prendre une tournure un petit peu différente, puisqu'on est dans un cadre universitaire, donc avec un respect de certains nombres de règles et d'obligations universitaires au regard de la recherche.
Richardon, c'est quoi le CESAM ?
Alors, le CESAM, c'est le Centre d'études supérieures en arts et médecine qui a pour objectif principal de permettre le développement de l'art thérapie dans un cadre de recherche. Deux départements à l'intérieur de ce CESAM, un département de recherche épistémologique, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sur des éléments de recherche théorique, basé sur, par exemple, la pose de vocabulaire, sur la définition d'un certain nombre de termes spécifiques à la discipline, à l'origine d'un certain nombre de fondements donc théoriques de l'art-thérapie moderne. Et puis, il y a un deuxième département qui est beaucoup plus axé, lui, sur la recherche clinique, c'est-à-dire que le principe étant de permettre à des art-thérapeutes, alors soit de manière individuelle, soit dans une démarche de recherche collective, de pouvoir déposer un projet et d'être à la fois soutenu par la Fratapem, de pouvoir avoir également des aides un peu techniques pour pouvoir développer des projets de communication, pour pouvoir publier, pour pouvoir parler de leur recherche et des résultats de leur recherche dans le cadre de congrès, de colloques, et de pouvoir éventuellement rencontrer d'autres chercheurs, d'autres disciplines pour pouvoir développer un peu ces axes de recherche. Il existe actuellement une petite dizaine de projets en cours, inscrits donc à l'intérieur de ce département de recherche clinique. Il y a des projets de recherche qui portent sur différents thèmes. Certains sont portés à une échelle relativement réduite en termes de nombre de patients, sur des projets très spécifiques, autour de telle ou telle pathologie, et en particulier il y a le projet de Karen Toutain qui a comme particularité, c'est qu'il rentre dans une démarche multicentrique, c'est-à-dire que Karen est à la tête et elle coordonne effectivement le dispositif, mais en partenariat avec d'autres art-thérapeutes, soit en formation, soit déjà formés, et qui, effectivement, vont pouvoir travailler, là plus précisément et plus spécifiquement sur ce projet, avec des enfants donc qui sont dans des collèges, entre autres, pour pouvoir effectivement les accompagner dans leur scolarité, parce que ce sont des enfants qui vont présenter un certain nombre de problématiques et de souffrances pendant leur scolarité.
D'accord. Alors, au Collège de la Forêt à Trénoux, il y a aussi des stagiaires. Est-ce que vous pensez que l'accueil de ces stagiaires sur des établissements en pilote pourra se généraliser ?
C'est le projet en partenariat avec Karen Toutain, justement, est de recenser les établissements pilotes qui peuvent être intéressés par l'accueil des stagiaires. Et donc, la FRATAPEM met en place aussi la communication auprès des stagiaires, voilà, pour que les stagiaires et les établissements pilotes puissent se rencontrer et pérenniser donc l'action qui est mise en place depuis 3 ans par Karen Toutain. Donc, à l'heure actuelle, nous avons des demandes de stagiaires et l'établissement d'une liste d'établissements pilotes est en train de se mettre en place pour que cette expérience puisse se développer davantage et apporter de manière spécifique à différents établissements le savoir-faire d'art thérapeute en formation.
D'accord. Une avant-dernière question. À combien estimez-vous le nombre d'enseignants ayant la certification d'art thérapeute et ayant donc la compétence de vrai au sein de l'institution ?
Alors aujourd'hui, on a fait un recensement. On a à peu près 90 art thérapeutes formés qui étaient enseignants auparavant. Donc ils n'ont pas forcément tous une certification d'art thérapie. Ils sont peut-être aussi diplôme universitaire puisque la mise en place de la certification s'est faite à partir de 2012. Mais voilà, à peu près 90 enseignants qui sont déjà sur le terrain, qui n'exercent pas forcément le métier d'art thérapeute donc au sein de l'institution, puisque le projet, c'est de développer ça. Mais le projet qui est en cours à l'heure actuelle, c'est de reprendre contact avec ces différentes personnes pour voir justement leur intérêt pour pratiquer l'art thérapie dans l'institution et essayer de faire du lien avec le projet pilote actuellement mis en place.
Alors, dernière question, il y a l'une et à l'autre. Vous, comment vous avez été approché, comment vous avez été intéressé par l'art thérapie ?
Moi, c'est très simple. Je suis issu d'un parcours plutôt de formation médicale. Mm-hmm. Il y a quelques années, j'étais interne en première année, en premier semestre d'interne de cardiologie au CHU de Grenoble. Mm-hmm. Et en même temps que je menais de front mes études de médecine, j'avais un parcours artistique, principalement dans la musique, et je devais passer cette même année ma médaille au conservatoire, c'est comme ça que ça s'appelait encore à l'époque, oui. C'est ce qu'on appelle maintenant donc le fin du troisième cycle, oui. Et il m'arrivait très régulièrement d'emmener mon saxophone, mm-hmm. que c'était l'instrument que je pratique, à l'hôpital, puisque une fois que j'avais terminé les consultations ou les courriers, je travaillais quelque temps la technique avant de rejoindre le conservatoire. Et un jour, alors que j'étais en train de faire mes gammes, un patient est rentré dans la salle où j'étais en train de répéter. Il est resté là, il s'est assis une bonne vingtaine de minutes. Il avait avec lui un certain nombre d'éléments qui l'accompagnaient. Je pense à une prise de tension, je pense à à sa saturation qui était affichée en permanence, en oxygène, etc. Enfin, il avait une multitude d'éléments qui... Il venait d'avoir un triple pontage, pour tout vous dire. Mmh. Et donc, il était surveillé sur plan physiologique. Et au bout d'une vingtaine de minutes, ce patient se lève, sort de la pièce et me dit « C'est peut-être comme ça qu'il faudrait soigner vos patients dans cet hôpital. » Donc, en fait, ça part de cette phrase-là. Et donc, à l'époque, les moteurs de recherche Internet n'étaient pas si développés de ça. Donc, je suis allé sur le Minitel. Je suis allé également sur... Je suis allé consulter les centres d'information et d'orientation, les CIO. Et on m'a orienté vers deux universités. Il y avait une université de psychologie et il y avait une faculté de médecine. Cette faculté de médecine se trouvait à Tours. Et je me suis dit, bah tiens, je vais continuer mon internat de cardiologie à Tours et en même temps, je ferai ma formation en art-thérapie. Et tout a démarré comme ça.
D'accord. Et vous, Christelle, alors ?
Alors, moi, c'est un parcours complètement différent puisque, à la base, je ne viens pas du tout du monde du soin. J'étais ingénieure en informatique.
Oui.
Et donc, et j'avais une pratique artistique à côté de calligraphie personnelle. C'est à la faveur d'un plan social. Alors, aujourd'hui, je dis à la faveur de, ce qui n'était pas le cas au moment où le plan social a eu lieu.
Bien sûr.
Puisque je n'étais pas du tout prête à quitter mon métier au moment où ce plan social a eu lieu. Mais donc maintenant, je dis à la faveur de ce plan social, je me suis posé la question de transposer une activité de chef de projet que j'avais en informatique à chef de projet dans le milieu culturel pour me rapprocher plutôt de centres d'intérêt personnel qui me plaisaient. Et du coup, dans la période de reclassement, j'ai fait des formations et j'ai fait des recherches concernant l'idée de faire chef de projet plutôt dans des milieux culturels. Et de là, j'ai bénéficié de formations qui étaient plus dans l'animation artistique ou dans la gestion de projet. Et en intégrant du coup l'animation artistique, j'ai découvert l'art-thérapie par les enseignements qui ont été donnés. Et là, ça a été une vraie révélation, me disant « mais c'est là que je veux être ». Et donc, à partir de là, c'est dans le plan de reclassement, la formation a pu se mettre en place.